présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. De commencer mon histoire, je vais, comme à l'accoutumée, vous dire mes petites idées personnelles, ce qui est arrivé avant et durant l'écriture. Je suis seul, des journées entières, mais ça ne me gêne pas du tout. Rien de ce que j'ai à dire n'intéresse personne. Mes idées sont tellement politiquement incorrectes qu'ils ne peuvent les entendre. Et l'on dit qu'on est l'un dans un pays libre, mais à une certaine condition, c'est d'avoir les mêmes idées que les autres. Même les histoires n'intéressent personne. J'ai trouvé une cassette où un groupe rock avait chanté une chanson sur moi. Et oui, ce groupe rock avait écrit une chanson sur moi. À cette époque-là, je m'appelle Charles-Emmanuel, pour des émissions rock un peu spéciales. Alors, puisque j'ai trouvé cette vieille chanson qui m'a été faite pour moi, je m'en vais vous la faire écouter.
quelque chose. Charles, Charles, Charles. Charles, Charles, Charles. Dis-moi quelque chose. Dis-moi un mot d'amour. Charles, Charles, Charles. Dis-moi quelque chose. Dis-moi un mot d'amour. Mes charmes et nos danses. Dans les mains de danse. Dab, pour Charles Emmanuel danse. Dab, dab, dab. Dab, 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 pour Charles Emmanuel danse. Dis-moi un mot d'amour.
Le son n'était pas formidable, mais c'était, cette chanson est tout de même assez vieille. Enfin, c'est tout de même un bon souvenir. Des souvenirs passés, j'en ai pas beaucoup. De bons, en tout cas. La vie est tellement nulle que mes souvenirs passés ne peuvent m'apporter ni joie, ni amertume. Je suis celui qui n'a pas de passé, ni présent. Et l'avenir, c'est le néant. Je suis comme un passager, passager sur terre. Et oui, je suis peu de passage sur terre. Et sur cette pauvre terre, et bien, ma foi, je n'aurais rien fait de vraiment extraordinaire. Et peu de choses que j'aurais faites n'aurait intéressé personne. Je n'aurais pas connu ni la joie d'être aimé, ni celle d'être comprise. Enfin, c'est comme ça. Je ne dois pas être le seul à être comme ça, ma foi. Je suis triste à cause de toutes ces bagarres qu'il y a au sein des sociétés d'auteurs. J'ai l'impression que certains se sont introduits pour les détruire. Pour la SCAM, elle ne défend, comme toutes les autres sociétés, les auteurs et non les outils qui servent à s'exprimer. Que l'on se serve de caméra, de micro ou d'ordinateur, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'auteur et son œuvre. Ce n'est pas l'outil qui donne la qualité à l'œuvre. Ce ne doit pas être l'outil qui doit vous mettre au-dessus des autres auteurs, mais votre œuvre. Je suis contre que certains artistes passent à la télévision. La télévision n'est pas faite pour tous les artistes et auteurs. Par exemple, Jacques Brel, qui passait à la télévision dans ma jeunesse, je le voyais suer, baver, grimacer. Ça me dégoûtait. J'aimais mieux c'est l'entendre sans le voir. Surtout les derniers temps, en plus, il faisait le clown et ridiculisait même ses chansons. La télévision rendait Brel ridicule, sale. Et il jouait les stars. Il a eu beaucoup de succès parce qu'il a écrit des chansons qui ridiculisaient les bourgeois. Mais lui en était un. Et si ses parents ne l'avaient pas été, il n'aurait jamais pu faire carrière dans la chanson ni être compositeur. Parce que dans les années 50, 60 et même après, on ne pouvait pas faire une carrière artistique et travailler. Par exemple, comme O.S. Lui, s'il avait été fils d'ouvrier, il n'aurait pas pu. Pas le temps à cause des 60 heures de travail et pas assez d'argent non plus. Donc, il aurait dû dire merci à son milieu de l'avoir aidé. Pour moi, Jacques Brel crachait dans la soupe. Il a eu du succès parce que les intellos sont de gauche et qu'ils aiment que l'on tape sur le bourgeois, malgré qu'ils le soient eux aussi. Et puis, ce n'est pas parce que l'on fait une œuvre avec un sujet de gauche que cette œuvre soit bonne. On peut avoir un sujet de gauche avec des idées de gauche et faire une œuvre nulle. Pour juger une œuvre, il faut aller au-delà des idées idéologiques politiques. Un auteur qui véhicule des idées de droite peut faire de bonnes œuvres et un auteur qui a des idées de gauche peut faire de la merde. Mais des auteurs de droite, il n'y en a plus puisque l'intelligentsia se dit de gauche et les empêche de s'exprimer. Dommage pour la liberté d'expression. On empêche de s'exprimer un auteur de droite, même si son œuvre est apolitique, mais simplement parce que l'on sait que l'auteur est de droite. Pour moi, je trouve ce qui vaut mieux, c'est être ni de droite, ni de gauche. Être libre, appartenir à aucun parti. Comme ça, on peut dire ce que l'on veut et faire des œuvres personnelles, sans chercher à plaire à qui que ce soit. Aragon aurait peut-être été un plus grand auteur s'il n'avait pas été au Parti communiste. On parle beaucoup de Star Academy, etc., etc., de tous ces chanteurs que l'on lance de cette façon par des petits concours, mais cela a toujours existé à la radio et même avant la radio. Et certains auteurs, même des auteurs attestent que certains aiment beaucoup, comme Jacques Brel, comme Barbara, ont participé à ces concours de chant. Ça leur a permis de passer sur une scène et de faire leur premier disque. Pour ce qui est de Love Story, aussi s'existait. Pour la première fois, dans les années 50, alors qu'il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision, une chaîne de télévision publique, ils avaient inventé une chose. À cette époque-là, il existait encore ce qu'on appelait des orphelins, c'est-à-dire des enfants qui n'avaient pas de parents, parce que leurs parents étaient décédés, des petits garçons et des petites filles, et qui vivaient à l'orphelinat jusqu'à leur majorité, c'est-à-dire 21 ans. Et la télévision avait eu l'idée, c'était de lancer une chose, c'est que des personnes pouvaient inviter chez eux pour les fêtes de fin d'année un petit orphelin. Alors il y a eu dans l'émission une jeune fille, elle devait peut-être avoir 16, 17 ans ou je ne sais pas exactement. Puis cette jeune fille a été invitée dans une famille vraiment très très chic, mais vraiment très riche, très chic. Ils lui ont offert vraiment un conte de fées. Ils l'ont habillée en tenue de soirée, tout ça, ils lui ont offert des cadeaux somptueux et tout, enfin c'était vraiment extraordinaire quoi. la fille semblait rêver, enfin, être dans un autre monde. C'était, pour ainsi dire, Cendrillon qui devenait une princesse, carrément une princesse. Et puis, il vivait dans un hôtel particulier, etc., etc. Et malheureusement, à la fin des fêtes de fin d'année, et les parents qui avaient invité la jeune fille l'ont ramenée en pension à l'orphelinat. La jeune fille n'a pas supporté cette chose parce qu'elle croyait que les gens allaient l'adopter. Et je crois que cette jeune fille s'est suicidée, a tenté de se suicider ou s'est suicidée. Alors vous voyez, ce genre de choses existait déjà dans les années 50 et c'était très très grave, c'était même plus grave que le loft. Je vais parler encore d'une autre chose, puisqu'on parle beaucoup de la nouvelle star M6, là, le jeune garçon qui s'appelle je ne me souviens plus. Enfin, c'est le jeune chanteur qui a réussi son prix et qui est devenu la nouvelle star. Et on va beaucoup critiquer ce jeune homme, mais il ne faut pas oublier, c'est qu'il chantait déjà enfant, qu'il a appris à chanter au conservatoire, qu'il faisait partie de chorale et qu'il chantait même à l'opéra de Belgique. Donc c'est pas un chanteur qui a été lancé comme ça, un gugus qui ne savait pas chanter. Et en plus de ça, on lui a appris à se tenir sur scène et tout. Il y a beaucoup de chanteurs à thème qui critiquent ce genre de chanteurs qui sont lancés comme ça, mais ils ne savent pas se tenir sur scène, et ils feraient bien si c'est de prendre des cours pour se tenir sur scène et se présenter comme il faut. Voilà. J'ai eu ce que je souhaitais, mais trop tard, toujours trop tard, peut-être pour purifier ce que je voulais. Car je recevais les choses tard dans le temps, au lieu de les recevoir dans la fougue de la jeunesse. Ça m'a permis de les recevoir sereinement, mais avec un rien d'amertume, me disant que c'est trop tard. Ça me fait mal, parce que j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Oui, d'avoir raté ma vie. Il ne faut pas, c'est interdire de s'exprimer les personnes qui ont des idées à contre-courant de celles de leur temps. Cela peut être dangereux d'empêcher d'apprendre des choses utiles, comme sur la science. Galilée, en disant que la Terre était ronde, s'était mis tout le monde contre lui. Et pourtant, il avait raison. Il faut laisser les gens s'exprimer. Après réflexion, essayer de comprendre, pour prendre des idées ou laisser de côté, pour le moment, ses idées. L'interdiction de s'exprimer est dangereuse. La censure laïque est tout aussi dangereuse que la religieuse et scientifique, qui s'interdit certaines recherches parce qu'elles pensent qu'elles aboutissent au mal. Mais la vérité scientifique ne doit pas avoir d'arrêt, de boutoir idéologique. Toute vérité, toute découverte doit être étudiée. Parce que le bon peut être mauvais dans certaines conditions, et le mauvais peut être bon s'il en transforme. Donc, il faut laisser les scientifiques s'exprimer, rechercher ce qu'ils doivent rechercher. Le bon peut se trouver dans le mal, le mal peut être bon. Ce 2 juin 2003, à 12h30, au Chazières, j'ai fait un rêve délicieux. En étant chez moi, je vois un jeune garçon, disons Alexis, qui écoute mes émissions. Ma sœur est venue me dire une chose. Elle trouve bizarre que j'habite dans un endroit pareil, etc. Je suis sorti, revenu, et je retrouve le jeune garçon dans une autre pièce, allongé sur mon lit. Joyeux, charmant. En souriant, il me dit qu'il aimerait comme l'histoire. Il a un sourire coquin. Je lui caresse les jambes. Il rit, soulève le haut de son pyjama. Voit juste le haut de la ceinture. Entend du bruit. Me regarde souriant. Je le soulève. Mets mes doigts, puis la main dans le pyjama. Me prend la main, la met sur son sexe. Je sens son sexe en érection. Il sourit. Rit. En me réveillant, je me disais que c'était dommage de ne pas rencontrer une personne comme lui, où le sexe serait quelque chose de simple, innocent, pur, joyeux et non sérieux, non sale. J'ai eu une année triste et pénible. Après avoir fini Sonner le vent, 3 mois après, je commence ma prochaine histoire, qui sera la guerre de Troie, et en 2 parties, une moderne et l'autre antique. Pour cela, j'ai relu l'Iliade et l'Odyssée. Mais je commencerai mon histoire avant les événements qui sont écrits dans l'Iliade, la préparation de la guerre, l'enlèvement d'Hélène au sacrifice d'Iphigénie. Et j'irai jusqu'à la mort d'Achille. Ensuite, je reprendrai l'histoire d'une façon moderne, puis je reviendrai après la mort d'Achille par la destruction de la ville de Troie. Cette année, j'ai beaucoup lu parce qu'une vieille dame m'a prêté énormément de livres. J'ai lu en plus les souvenirs de Christophe Rocancourt. Lorsque je l'ai vu à la télévision qui racontait son histoire, j'étais fasciné par lui. Son livre m'a déçu un peu, mais je l'aime bien. Ce jeune homme a de la valeur et des idées. La preuve, il a fait gagner des millions à des gens, comme la boutique qu'il a créée, boutique de vêtements de luxe, qu'il a créée dans un hôtel. Il a demandé à un directeur d'hôtel, c'est de supprimer son bar et à la place d'en faire un magasin de luxe, de vêtements de luxe. Ce jeune homme, il aurait pu être un grand homme d'affaires s'il avait eu une bonne famille, il était né d'une bonne famille. Mais il n'a eu ni famille, ni argent. Alors il s'est débrouillé comme il a pu. Ce qu'il a perdu, c'est qu'il a voulu former une famille. Un aventurier ne doit pas avoir d'attache. Il doit être libre de ses mouvements. Avec femme et enfant, c'est impossible. Je lui souhaite tout de même bonne chance. Je m'imagine Christophe rencontrant le jeune David Osansky, devenant amis à eux deux, ils se seraient aidés et sauvés. J'ai lu aussi des pièces d'Anouilh. J'adore ces pièces. On dit qu'il est de droite, fasciste, etc. C'est faux. Les curés, l'armée, la famille passent un mauvais quart d'heure avec lui. J'ai lu aussi la vie de Tolstoï, étrange bonhomme. J'ai lu Les Hauts dehors le vent, que j'avais déjà lu, bien entendu. Quel livre est... qui est vraiment extraordinaire. J'ai lu aussi bien d'autres livres. J'ai vu aussi beaucoup de films en DVD. Avec la nouvelle loi sur les retraites, je crois que je pourrais prendre ma retraite en 2004. Merci. Ouf. J'ai commencé à 14 ans et ça me suffit. Surtout que je faisais plus de 60 heures par semaine. Année fatigante, chaude et très triste. J'avais un ami, enfin, je croyais que j'en avais un. Mais je ne peux rien lui dire, parce qu'il me contredit constamment et ne veut pas que je m'explique. Nous n'avons plus rien à nous dire. La mort plane, plane toujours près de moi. J'ai des désirs de mourir, des cafards terribles. Je supporte de moins en moins la vie. Je m'enfonce de plus en plus et ne veux plus vivre. Je ne suis bien que dans mes rêves. Oui, dans mes rêves. Un jour, je rangerai tout. Et terminerai tout, bien entendu, et en finirai. Maintenant, je vais vous faire écouter ce que je disais sur la création radiophonique. C'est une vieille cassette aussi que j'ai trouvée, mais enfin, ça peut être intéressant de réentendre ça.
Dans notre époque où la création artistique est très chère, il reste encore un moyen où l'on peut créer à moindre frais. C'est la radio. Et je crois que la radio restera la seule machine pour s'exprimer artistiquement. Le cinéma, la télévision, le théâtre aussi, sont trop chers et sont entre les mains des gros industriels qui seuls ont les moyens de les posséder. Il faut que le public réapprenne à se servir de la radio comme d'une radio et non comme d'un magnétophone qui diffuserait d'une façon infinie les derniers disques parus sans qu'on en ait à changer de disque. Avec le son, on peut faire des choses extraordinaires, créer une ambiance à moindre frais. Une petite musique, un chant d'oiseau, une voix, et voilà le décor planté. Des chevaux qui galopent, des cris, un narrateur qui décrit ce qu'il voit, et voilà une bataille où 2000 hommes combattent. Un bon scénario, des coupes de bruit, une musique, un narrateur, 35 heures pour une heure d'émission, à grand spectacle, au cinéma ou à la télévision, serait coûté des milliards, des mois et des années de travail pour le même nombre d'heures. Mais il faut aussi que le public encourage les créateurs, que les radios disent oui à la création. Car même dans les radios libres, c'est difficile de faire ce genre de choses qui ne rentrent pas dans l'expression habituelle, c'est-à-dire pouce-disque ou dialogue avec un invité où le public est bien sûr monologue avec ses idées. Je fais de la radio, c'est pour défendre la création artistique française et européenne. Quoi que certaines puissent penser, la France a une culture qui ne doit rien aux autres cultures. Et si elle n'est peut-être pas la première culture mondiale, elle n'en est certainement pas la dernière. Et si les étrangers qui résident en France peuvent défendre et aimer leur culture, moi je peux défendre et aimer la mienne. Moi, je suis plutôt un visuel et je fais mes émissions de radio de telle sorte que le public puisse voir des images. Pour faire une émission comme la mienne, cela représente 20 heures de lecture, une journée d'écriture, ce qui veut dire 7 très grandes pages, une journée de découpe, choix, musique et bruit, et 5 heures d'enregistrement. Une heure d'émission égale 35 heures de travail, si tout va bien. Ceci est un extrait d'enregistrement où j'explique un petit peu ce que je fais, mais bien entendu maintenant, pour une heure d'émission, ça représente 35 pages écrites à la main et 35 pages de grandes pages. Et ça représente, une heure d'émission, ça représente beaucoup plus de temps. Il faut absolument que je me mette à écrire. N'importe quoi, mais écrire. Je n'ai rien fait. Et cette année qui vient a été très dure. Quelle terrible année que celle de 2003. Je n'ai jamais eu autant la tête aussi vide que ces derniers jours. 3 mois de chaleur, c'est beaucoup trop pour moi. J'aimerais écrire pour me faire de l'avance, mais je ne peux pas, j'ai la tête vide. Pourtant, j'ai écrit le résumé de l'histoire, 100 pages, plus fait les fiches des personnages. Tout est prêt, j'ai relu l'Iliade, l'Odyssée, mais cette chaleur insoutenable. J'aimerais, c'est écrire rapidement cette histoire et l'enregistrer de suite. J'ai peur que celui qui m'a demandé l'histoire ne disparaisse. Je ne pourrais pas lui donner une copie de l'histoire en CD. J'ai acheté tout exprès pour lui un graveur de CD. Peut-être qu'en septembre, ou il y aura un meilleur temps, je pourrai commencer à écrire. Là, nous sommes toujours au mois d'août et je commence mon travail et lors le 8 août. Remarquez, ce sera peut-être mes dernières vacances. Tant mieux. Et tant pis, parce que j'aurai d'après la retraite que je prends un âge très jeune. Mais après la retraite, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est le cimetière, la prochaine étape. La vie passe très vite, oui, très vite. On ne se rend pas compte, surtout que le cerveau vieillit moins vite que le corps. Et que l'on ne se voit pas, que l'on ne se voit que dans le regard des autres. Et ça fait mal de se voir vieillir. Ça fait mal de voir que les autres vous voient comme un vieux, surtout les jeunes. Lorsque l'on est près d'un jeune, on a l'impression que le jeune va vous donner un peu de son fluide, un petit peu de son fluide de vie, de jeunesse. J'essaye de ne pas avoir l'air, disons, trop d'un vieux con. Ça fait mal de voir que la jeunesse va vous prendre pour un vieux clown. j'essaie d'être le moins vieux possible et de garder des idées claires et jeunes, mais jeunes, pas con. D'effets spéciaux vidéo après 2 ans qui était chez Sony en réparation. Sony me le rend, il ne peut pas le réparer parce qu'il n'y a plus de pièces en stock. Ils ont eu deux ans pour le faire. Ils auraient eu 2 ans pour le faire plutôt, parce que il aurait pu en fabriquer les pièces manquantes. Ils ont bien un service qui crée des modèles, des nouveaux modèles, pour les présenter à la direction avant de les fabriquer. Avant de les fabriquer à la chaîne, il faut en fabriquer un échantillon, et cela, il faut y faire à la main, avant de livrer, livrer un téléviseur à la fabrication à la chaîne. Il faut en présenter un, faire un modèle à la main. L'ingénieur de ce service en fabrique peut-être 10 pour que la direction puisse choisir un. Donc mes pièces, ils auraient pu aussi les faire par cette unité à la main, comme leur modèle. Mais non, ils préfèrent, c'est ne pas réparer l'appareil. La vie réelle ne m'intéresse pas. Peut-être parce que il n'a pas pu être accepté. Je me sens en dehors de ce monde. Un modèle unique et atypique. Ce que j'aime, personne ne l'aime. Pour supporter de vivre, je vais écrire et me réfugier dans mon monde, monde imaginaire, où je vais retrouver des gens, des lieux plus forts, plus beaux que le réel. J'aime que mes personnages, je les aime plus que n'importe quel être vivant, parce que je les comprends. Ils sont comme moi, hors du commun. J'aime les gens qui sont hors du commun, comme par exemple Christophe Fer, Rocancourt, Rimbaud et beaucoup d'autres. Bien entendu, de belles jeunes filles en fleurs, comme j'en ai connu, qui étaient belles mais aussi élégantes et pas plouques. Certains personnages, je dois avouer, sont des copies, en mieux, de personnes que j'ai connues, comme Didier, Charles, Marc, etc., etc. Alexis aussi. Le rideau va se lever et place à mon histoire. Elle n'a pas encore de nom. Je vais relire le résumé. Et après, lorsqu'il fera moins chaud, je commencerai à écrire l'histoire. Thank you.
préliminaire. À la fin du troisième millénaire, avant Jésus-Christ, des peuples de même race, les Indo-Européens, venant des grandes plaines de l'Europe centrale, s'unissent pour envahir l'Europe et vont vers les pays du Sud. Pays du Sud, ou terre du Sud plutôt, parce que la plupart de ces régions, la définition de pays n'était pas encore bien précisée. Et beaucoup de peuples qu'ils rencontrent, si l'on peut dire, qui ne représentent pas une nation, ni un pays, comme on l'entend à notre époque. La plupart du temps, ce sont des familles regroupées qui ont formé des villages ou des villes. Et ce sont plutôt des fermes réunies. Un de ces groupes, les Indo-Européens, les Arias ou Ariens, se dirigent vers le plateau de l'Iran et de l'Inde. Un second groupe, les Zimites, vont vers l'Asie mineure. Un troisième vers la mer Égée et se divise à son tour. Une partie gagne l'Europe occidentale et l'Italie. Un autre descend vers la Thessalie. Ce sont ces envahisseurs qu'on appelle les Achéens. Parce que ces envahisseurs sont devenus plus importants que les autres. Plus turbulents aussi. Les Achéens, qu'Homère nomme aussi dans l'Iliade. Les Ariens, ce sont des hommes blonds, tels Ménélas, Achille et son fils Pyrrhus, dit le flamboyant, portant barbe et cheveux longs, chevelu et l'épithète des Achéens dans l'Iliade. Ils sont civilisés, pasteurs de bœufs ou de moutons. Ils connaissent l'agriculture et surtout le cheval, grand avantage sur l'Égypte et les Crètes qui l'ignorent. Les chevaux occupent une place importante dans l'Iliade. Ils utilisent le cuivre, le bronze, le fer. La société est organisée en famille, sous la dépendance du père, comme Agamemnon. Et même parfois, ils veulent se constituer en petit royaume indépendant. nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Pierre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.